Radio 1, premier sur l'info.
Et c'est parti pour le journal, Samia Stambouli, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. 4 jours après Noël, c'est le moment de vérité pour l'avenir de vos cadeaux. Si vous êtes nombreux à les conserver, certains s'en séparent. Ils atterrissent généralement sur les sites de vente en ligne et l'activité de ces sites a bondi. Illustration dans ce journal. Dans cette édition également, vous entendrez Alexis Cata, le jeune chanteur de Paya continue son aventure Nouvelle Star. Il reviendra pour Radio 1 sur son étape du théâtre. Et puis on fera le bilan de la visite du groupe chinois Hainan. Ses dirigeants ont passé 5 jours entre Bora Bora, Tahiti et Moorea. Jean-Christophe Buissou évoque 40 milliards d'investissements.
Et donc, à Tahiti aussi, on revend ses cadeaux de Noël.
En effet, en métropole, revendre un cadeau de Noël n'est plus tabou. Une personne sur deux se dit prête à le faire. Alors, beaucoup attendent l'ouverture des paquets cadeaux le 24 au soir pour les plus impatients ou le lendemain. Et parfois, à l'ouverture, c'est la déception. Nombreux sont les internautes qui ne s'encombrent plus d'un cadeau qu'ils ne trouvent pas à leur goût ou qu'ils ont tout simplement en double. Résultat, depuis samedi, le site petiteannonce.pf connaît une hausse importante de son activité. Le nombre d'annonces publiées a même doublé. Écoutez les précisions de Steve Amblin, fondateur et directeur de ce site.
Et alors, sur Petite Annonce en PF, en moyenne, nous avons plus de 600 annonces qui sont postées chaque jour, toute l'année. Mais la particularité de cette année, c'est que nous avons vu le volume de produits mis en ligne parfois doublé en fonction des journées. Et cela avant la Noël. Les internautes ont commencé à vendre leurs produits d'occasion, certainement pour pouvoir récupérer de l'argent pour pouvoir acheter des cadeaux neufs. Durant les 2-3 jours qui suivent la Noël, généralement les gens sont encore en période festive ou sont en train de se reposer, donc l'activité sur le site est revenue à la normale. Mais depuis, j'ai noté, comme avant Noël, une suractivité des internautes sur le web qui viennent céder leurs produits d'occasion.
Cette nouvelle façon de consommer qui témoigne d'un réel changement des mentalités depuis quelques années est principalement due au contexte économique du pays, selon Steve Amblin.
Ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins de réticence à aller sur Internet et à poster des produits à vendre. D'autant plus que la situation économique du pays fait que notre site internet permet à n'importe quel internaute de pouvoir gagner de l'argent en revendant des articles, des produits qu'il n'utilise pas. Donc, sachant qu'en plus notre service est gratuit, n'importe qui en Polynésie peut facilement, par le biais de Petite Annonce en PF, se faire de l'argent.
Et plus que 3 jours avant l'interdiction des vitres teintées.
En effet, elle rentre en vigueur ce jeudi. Elle concerne les vitres latérales avant, le pare-brise avant et la position de bandeau à effet miroir. Annoncée fin 2013, cette mesure avait provoqué un tollé chez les installateurs de vitres teintées. Les professionnels attendaient un assouplissement de la réglementation. Des discussions ont donc eu lieu entre les deux parties, direction des transports terrestres et professionnels. Et l'éventualité d'un appareil permettant de mesurer l'opacité des vitres avait quelque peu éclairci un horizon. Sont bien incertains, mais les discussions n'ont finalement pas abouti. En cause, l'origine de l'appareil proposé. Je vous propose d'écouter les explications de Geoffrey Hart. Il est le porte-parole des professionnels de vitres teintées.
Nous avons proposé un appareil de contrôle américain utilisé par les forces de l'ordre des États-Unis. Ils ont trouvé que c'était fiable, mais ça ne correspondait pas aux normes européennes. Ils nous ont demandé de trouver un appareil aux normes européennes, mais nous, qui sommes-nous, professionnels ici à Tahiti, pour demander au gouvernement européen quels appareils ils utilisent, et on n'a pas l'impression que eux de leur côté ils ont vraiment fait des efforts pour en trouver un.
Celui qui représente une dizaine de professionnels à Tahiti a peur pour l'avenir. Il dit avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires. On l'écoute.
C'est presque la mort de la profession. Jusqu'à présent, on n'a jamais caché que ça allait bouffer une bonne partie du chiffre d'affaires. On a pu mesurer une perte de chiffre d'affaires de 50%, qui est énorme. Certains d'entre nous avaient déjà prévu le coup, donc ils se sont un petit peu diversifiés en attendant que le gouvernement prenne une décision sage. Bon, c'est pas arrivé à ce qu'on voulait. On est obligé quand même de suivre dans ce contexte économique déjà morose, et c'est pas facile. On avait quand même misé sur cette activité qui était rentable pour nous, et aujourd'hui on a toujours des charges qui n'ont pas changé, et on doit faire face en faisant autre chose. On installe des alarmes, des autoradios, mais bon, on avait quand même une spécialité, c'était les vitres teintées, et on perd beaucoup.
Rappelons que les contrevenants s'exposent à une amende de 8 100 francs majorée à 21 450 francs si elle n'est pas réglée dans les 45 jours.
Tout autre chose maintenant, gros plan sur Alexis Cata, candidat de la Nouvelle Star.
Le jeune homme originaire de Paya continue doucement mais sûrement l'aventure Nouvelle Star. Jeudi dernier, il s'est qualifié pour l'épreuve tant redoutée des trios au théâtre. Après une performance moyenne à Marseille sur une chanson tahitienne chantée en yaourt, c'était lors de la première étape, mais le chanteur a mis tout le monde d'accord sur un deuxième morceau à la guitare, 4 oui unanimes du jury qui lui ont permis de partir pour Paris. Dans la capitale, Alexis a confirmé son statut de coup de cœur de la chanteuse et membre du jury Élodie Frégé sur la lettre, le fameux tube de Renan Luce. Pour Radio 1, Alexis Cata s'est confié sur son parcours après les tournages de ses castings qui ont eu lieu il y a un peu plus de 2 mois. Il est revenu sur son étape du théâtre. Il a évoqué un moment spécial, lui qui n'avait jamais chanté avec un micro. On l'écoute.
En fait, sur les lignes, c'est quelque chose de spécial parce que ben, j'étais jamais monté sur scène, j'avais jamais chanté avec un micro, pas comment expliquer. Même si on est ici avec 100 candidats devant nous, c'est quand même 100 personnes et ben, j'avais jamais vraiment chanté devant 100 personnes et c'est une expérience de fou quoi. Depuis tout petit, déjà je regarde cette émission, j'ai toujours aimé la musique donc et je me suis dit pourquoi pas. Enfin, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier, j'ai vraiment envie de c'est pas comment expliquer la popularité ou quoi, ça m'intéresse pas, c'est plus montrer aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette émission, c'est je voulais montrer aux gens de quoi j'étais capable et transmettre tout ce que je peux transmettre en fait avec de la musique, ben, j'ai envie de le transmettre.
On n'en doute pas, il transmettra beaucoup dans le prochain épisode. Alors Alexis Cata continuera-t-il l'aventure Nouvelle Star ? Réponse dans l'émission diffusée sur Direct 8 via la TNS ou disponible en replay. Petite indiscrétion, il chantera en trio avec 2 autres candidats sur le tube de Stromae, Papa Outé.
Le groupe chinois Shenna est prêt à investir 40 milliards de francs en Polynésie.
Propriétaire de Hainan Airlines, de 550 établissements hôteliers et de plusieurs bateaux de croisière, le groupe chinois a repris les discussions avec le gouvernement. Une délégation s'est rendue en Polynésie cette semaine. Ce déplacement fait suite au voyage de Jean-Christophe Buissou, ministre du Tourisme et de la Relance économique en Chine. C'était en octobre dernier. Sur le terrain, les Chinois ont pu apprécier le potentiel de Bora Bora. Là-bas, ils espèrent y investir dans des structures hôtelières déjà existantes. Ce voyage a aussi permis la rencontre, et ce pour la première fois, entre le groupe et Édouard Fritsch. Ils se sont rendus à Moréa ce samedi pour y étudier la réalisation d'un complexe hôtelier ainsi que les perspectives d'un investissement à Altimaono. Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Buissou.
Les négociations avancent bien puisque nous allons transmettre au groupe H&A avant le 15 janvier le projet de protocole d'engagement entre la Polynésie et H&A. Nous attendons de ce groupe des investissements lourds qui doivent au moins atteindre les 40 milliards de francs, qui veut donc dire qu'un hôtel de 500 chambres, par exemple, 500 clés, pourrait satisfaire ce point important pour nous. Et ce groupe attend de la Polynésie une visibilité sur ses investissements. Lorsque je parle de visibilité, il s'agit bien entendu de pouvoir amortir dans le temps les investissements en question et puis aussi d'obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de ces activités économiques. Nous sommes très contents avec le président de la manière dont ces discussions se tiennent et il était important pour M. Tan de rencontrer physiquement Édouard Fritsch et de sentir que la Polynésie est au rendez-vous. Sur ces investissements qui sont aussi importants, bien sûr, pour le groupe H&A.
Rappelons que ce type d'investissement étranger est facilité en Polynésie française grâce à l'exonération importante de taxes liées aux fonciers et à l'impôt sur les sociétés.
On en fait maintenant un point sur la filière apicole.
De saison que les récoltes de miel sont mauvaises, le précieux nectar n'a pas été produit suffisamment cette saison. Réel parcours du combattant pour en trouver du côté des particuliers comme chez les professionnels, il est devenu une denrée rare. Résultat, de plus en plus, l'éventualité de rouvrir les importations après leur arrêt en 2011 refait surface. Le ministre de l'Agriculture, Frédéric Rivetta, a chargé ses services d'étudier cette option. En septembre dernier, le ministère de l'Agriculture s'était pourtant montré ferme, disant qu'il n'y aura pas de réouverture des importations pour des raisons sanitaires. Plus de 3 mois après, vous allez l'entendre, le ministre de l'Agriculture n'a pas un avis aussi tranché. On l'écoute.
c'est pas dans les médias. Je sais que de par le monde, il y a pas mal de maladies qui existent. Et si c'est pour faire venir du miel sur la Polynésie française, il faudra que j'ai toutes les garanties pour ouvrir. Et dans le contexte pour juste couvrir et non pas noyer le marché de la Polynésie française avec la production locale et avec la quantité pour couvrir le besoin de l'ensemble des Polynésiens.
Interrogé pour faire le point sur la saison en septembre dernier, Rayari Crawford, patron du syndicat des apiculteurs, admettait déjà que la saison était mauvaise. Aujourd'hui, forcément, les prix se sont envolés, passant de 2500 francs en moyenne le kilo à 5000 francs. Alors dans ce contexte, le patron du syndicat des apiculteurs doute de la parole du ministre et reste persuadé que le pays va rouvrir l'importation du miel en Polynésie.
Que Monsieur Iveta, forcément, lui, c'est la ministre de l'Agriculture, mais c'est pas un spécialiste de l'apiculture. Donc, quand il dit qu'il veut faire prendre aucun risque, il suffit de regarder tout le miel qui rentre en fraude. Le miel continue à rentrer en fraude. Ça continue à être le grand n'importe quoi, mais eux, ils veulent pas travailler avec les professionnels. Donc voilà. Moi, je n'accorde aucun crédit à ce que Monsieur Iveta dit en apiculture. Voilà, qu'on n'est pas l'apiculture et c'est pas lui qui va venir nous apprendre quoi que ce soit.
En attendant, les formations apicoles continuent leur progression dans les communes, notamment à Faha et à Punaouia. Les ruches avec ou sans les abeilles continuent de se vendre, mais les chiffres officiels de la récolte pour cette saison, qui devraient être dévoilés courant février, risquent bien de donner le bourdon aux apiculteurs, des novices aux plus confirmés.
Et puis vendredi soir, l'Ordre de Malte a réuni les plus démunis pour un repas de Noël.
Beaucoup de bénévoles sont venus prêter main forte aux organisateurs de l'Ordre de Malte. Parmi eux, Miss Tahiti et Miss Eva ont aidé à servir les repas chauds à plus de 120 sans-abri, qui sont même repartis avec des cadeaux offerts par des enseignes de la place. Un vrai moment de partage dans la joie et la bonne humeur. Ce repas de Noël est un événement important qui vient clôturer une année riche pour l'Ordre de Malte, mais celle qui vient le sera tout autant pour Christian Hiverna, délégué de l'Ordre de Malte en Polynésie. Il se prépare à un programme chargé, on l'écoute.
On va continuer les actions qu'on a menées déjà en 2014 et puis peut-être en provoquer d'autres selon les idées qui vont germer. Mais là, on va continuer donc bien sûr ces repas, c'est un petit peu notre fil rouge. Puis les visites, là en ce moment par exemple, on est à Matayapo, à Taravao, en visite à nos personnes âgées. On va continuer nos visites à la prison également, une fois tous les deux mois. On va participer à l'animation des offices dominicaux, le samedi et le dimanche à la prison. Puis d'autres actions sur les lépreux. Là, et surtout une grosse opération qui va avoir lieu fin janvier, c'est la quête de la journée mondiale des lépreux.
Une opération qu'on suivra bien sûr à Radio 1.